Les séminaires du Collège de France.
J'ai le grand plaisir de vous présenter le professeur Adam Ledgway, qui a étudié en Angleterre. Il a obtenu son PhD à Manchester, je crois. Puis il a été professeur à l'université de Cambridge pendant de longues années. Et maintenant, il est professeur à l'université de Bergamo, en Italie. Donc Adam est un grand spécialiste de dialectologie romane, de linguistique diachronique, d'études de la variation, mais toujours en utilisant des modèles très précis, détaillés, profonds, inspirés par la linguistique théorique et par la linguistique générale. Et il montre très bien dans son travail l'interaction entre la réflexion théorique et l'étude empirique de la variation. Donc, je te remercie d'être ici et je te laisse le floor.
Merci Luigi, c'est très gentil de ta part de m'avoir invité aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous voyez, je vais parler de la théorie et la variation linguistique en relation avec les variétés romanes. Alors, on va poser la première question, qui est « Qu'est-ce que c'est qu'une langue romane ?» Une réponse canonique, si on veut, à cette question, c'est que c'est toute langue qui descend du latin parlé, ce qui exclut bien sûr les soi-disant créoles romans. Mais sur le plan linguistique, on peut reconnaître une langue romane parce que les langues romanes partagent certaines caractéristiques communes sur le plan phonologique, morphologique, syntaxique et lexical. Par exemple, on sait que le latin classique présentait 10 voyelles toniques qui étaient distinguées par la longueur, donc il y a un i long, un i bref, etc. Mais quand on passe aux langues romanes, on sait qu'il y a deux systèmes vocaliques différents. Il y a des langues romanes comme le sarde, qui a abandonné complètement les distinctions de quantité, de façon à ce que tous les i, par exemple, long et bref, deviennent un i. Donc on a philo et pilo, par exemple. Tandis qu'en latin, on a philum et pellum, avec un i bref. Puis il y a un autre système qui caractérise la majorité des langues romanes, comme le français, où les distinctions de quantité ont été réinterprétées comme des distinctions de qualité. C'est pour cette raison-là qu'en français, par exemple, le « i » bref de « pelum » et le « e » long de « telam » rime. Donc on dit en français « poil étoile », on ne dit pas « pile étoile ». Donc sur le plan phonologique, on peut très bien, très facilement reconnaître une langue romane. Pour ce qui est de la morphologie, on peut observer que le latin, par rapport aux langues romanes, présente une morphologie très riche. C'est la raison pour laquelle, en latin, on voit beaucoup de flexions verbales et nominales. Donc, si on prend l'exemple qu'on a là dans le tableau 4, on a « je dis qu'il a fait cuire du pain, je veux qu'il ait fait cuire du pain ». On voit qu'en latin, on a des éléments que j'ai encerclés en vert qui montrent une flexion riche. Eum, donc on a un sujet infinitival qui est marqué accusatif, donc il n'y a pas de conjonction de subordination. Il faut marquer la subordination dans ce cas-là avec un sujet qui est marqué accusatif. On a le verbe coxis, qui est marqué pour la voix, la diathèse et l'aspect. Et puis on a panem, qui est marqué dans ce cas-là pour l'accusatif. Tandis que les langues romanes montrent des catégories fonctionnelles, donc au contraire du latin, dans les langues romanes, on a des éléments fonctionnels qui marquent de façon explicite, par exemple la subordination, ce sont les complémentaires, que, qu'est, que, ce en roumain. En plus, on a toute une série d'auxiliaires qui marquent les catégories qui ont été marquées de façon synthétique en latin, comme on voit là. Et puis enfin, on a des éléments qu'on appelle des déterminants, c'est-à-dire les articles, qui n'existaient pas en latin. Donc, du point de vue typologique, on passe d'un système latin très synthétique à un système roman qui est très analytique. Enfin, pour ce qui est de la syntaxe, on peut dire que le latin montrait un ordre de mots caractérisé par un ordre à tête finale. Donc, en latin, on disait par exemple « aciem instruit », c'est-à-dire « ligne de bataille rangin », donc le complément précède la tête, dans ce cas-là le verbe. Et il en est de même pour ce qui est du groupe nominal où on a urbanarum rerum metum, c'est-à-dire les choses de la ville, la crainte aux craintes. Donc le complément précède le nom. Tandis que dans les langues romanes, on sait très bien que l'ordre, c'est l'opposé, c'est l'inverse. On a la tête en position initiale, donc on dit en français il rangea l'armée, on ne dit pas il armée rangea, comme en latin. On dit la crainte concernant l'État, on ne dit pas. Là, concernant l'état, crainte. Pour ce qui est du lexique, on peut dire que toutes les langues romanes partagent un certain nombre d'entrées lexicales. On sait par exemple qu'il y a au moins 1300 bases lexicales qui survivent dans toutes les variétés romanes. Et puis en plus, il y a encore 4000 bases lexicales qui survivent dans beaucoup de variétés de langues romanes, mais pas dans toutes les variétés romanes. Donc, on a vu qu'il y a quand même toute une série de phénomènes qui nous aident à comprendre la nature des langues romanes. Mais il faut se demander si ces caractéristiques qu'on vient de passer en revue prennent en compte toutes les variétés romanes. Est-ce qu'elles sont valables pour toutes les variétés romanes ? En fait, si on élargit l'examen au-delà des langues standards, on voit que la variation est encore plus vaste. Donc, on n'a eu qu'un tableau partiel de la variation possible. Puis, en plus, cette variation possible qu'on voit quand on examine toutes les variétés, et non pas seulement les langues standards, peut nous aider à évaluer et à mettre à l'épreuve les paramètres, les universels et la typologie. Les paramètres, comme vous savez bien, ce sont, disons, les choix linguistiques qui règlent en quelque sorte la variation possible dans les langues naturelles. Les universels sont les règles qui régulent toute langue naturelle de façon à ce qu'on n'ait pas de grammaire sauvage. Et puis, enfin, on a la typologie. La typologie, c'est l'étude des classes naturelles qui caractérisent les langues du monde, les langues naturelles. On va repasser très vite ces trois éléments, les paramètres, les universels, les typologies, sur la base de quelques données romanes. On va commencer par les paramètres. Les paramètres, donc, sont les dimensions selon lesquelles les langues varient ou peuvent varier. Prenons l'exemple de l'accord du participe actif. On peut dire que le participe actif montre éventuellement l'accord parce qu'il existe une relation d'accord entre le verbe, c'est-à-dire le participe, et un nominal, un élément nominal à l'intérieur de la phrase. Et on peut régler, on peut décrire cette variation qu'on voit en fonction d'une hiérarchie, comment figure une là, et on peut poser une question très générale, est-ce que le participe est capable de montrer l'accord par rapport aux nominaux, par rapport aux éléments nominaux de la phrase? Si la réponse est non, c'est-à-dire que non, le participe n'est pas susceptible d'accord, on arrive à une langue, on obtient une langue comme l'espagnol ou le portugais, où on constate que le participe actif, comme on voit dans cet exemple-là, n'est pas en mesure de montrer un accord. Donc on dit « esta canción la has escuchado » et on n'a pas d'accord. Donc on voit que l'option-là, le paramètre, est un paramètre très simple. Dans cette langue, il ne faut rien faire parce que l'accord n'existe pas. Une deuxième option, qui est encore une option très simple, donc un paramètre très simple, c'est le cas de l'abruzzais oriental où on voit que le participe doit toujours montrer un accord. Donc on a l'espagnol, il n'y a pas d'accord, option pas très marqué. Et puis maintenant, on a un exemple d'une variété de l'Italie, la Bruxelles, où il y a toujours l'accord. Donc, jamais l'accord, toujours l'accord. Dans ce cas, dans cet exemple-là, on voit que le verbe manger montre un accord au pluriel, magnite. Et si c'était au singulier, on aurait magnate. Et l'accord se fait dans ce dialecte avec n'importe quel élément nominal, pourvu que le nominal soit pluriel. Donc, nous sommes mangés le biscuit, littéralement, et on voit que magnite s'accorde avec nous, et pas avec le biscuit. Puis, il y a d'autres variétés, comme les variétés occitanes, où on trouve souvent un comportement plus restrictif, donc le paramètre n'est pas celui qu'on a vu pour la Bruxelles. Dans ces cas-là, le participe peut s'accorder seulement avec les objets directs, mais l'objet direct peut se trouver dans n'importe quelle position. Donc, au contraire du français, on peut dire « avez-vous pris ?» J'ai une faute là. Avez-vous pris des photos? Et littéralement, on dit avez-vous prise des photos? Donc, on a l'accord avec preso des photos. Donc, on a un accord avec l'objet dire, hein, même quand il suit le participe. Le cas du français est beaucoup plus restrictif. Encore une fois, on a éventuellement l'accord avec l'objet direct, mais l'objet direct, dans ce cas, comme on sait très bien grâce aux études à l'école, doit occuper une position préverbal, donc la clé que tu as prise, quelle clé as-tu prise? Tu l'as prise, mais on ne peut pas dire tu as pris la clé. D'accord? Donc on voit que la règle, le paramètre est encore plus restrictif, est plus marqué. On peut passer au cas de l'italien. Dans le cas de l'italien, on a un même type de règle. Il faut que l'objet direct soit antéposé, mais dans ce cas-là, l'objet direct ne peut pas être un syntagme nominal lexical. Il faut qu'il soit un pronominal. Donc, on a li hai visti, ci hai visti. Mais on ne peut pas dire en italien la chiave che tu hai presa. Dans le passé, on pouvait le dire, mais on ne le dit plus en italien. Enfin, dans le cas du sarde, en sarde, c'est un peu comme l'italien, mais il y a une restriction ultérieure, c'est-à-dire que le pronom qui précède le participe doit être à la troisième personne. Donc on a « los has visto son »,« tu les as vus » avec accord, mais dans le cas de « tu nous as vus », il n'y a pas d'accord. Puis enfin, l'option la dernière option possible, on le voit dans le cas du catalan parlé à Barcelone, où on a l'accord, comme en sarde, seulement avec les objets pronominaux qui sont de la troisième personne. Mais dans ce cas-là, il faut que le pronom soit du féminin. Donc on dit «els he llegit», «je les ai lus», masculin, sans accord, mais «les he llegides» au féminin. Donc on voit que la règle, les paramètres deviennent de plus en plus restrictifs quand on passe du haut en bas. Donc on a vu que pour ce qui est des paramètres, que les langues romanes modernes, standard, c'est-à-dire l'espagnol, le français, l'italien, ne font qu'offrir un tableau partiel de la variation possible. Tandis que si on prend en considération la variation non standard, comme on voit dans le cas de la Bruxelles, l'Languedocien, le Sarde et le Catalan de Barcelone, on peut réaliser, si on veut, un tableau plus complet. Puis en plus, on voit donc que les paramètres qu'on voit dans la figure 1 partent d'une position, pas marquée, donc il n'y a pas d'accord, toujours l'accord. Et puis après, on voit par chaque étape que la règle devient de plus en plus restrictive. En plus, cette hiérarchie qu'on voit en figure 1 nous représente aussi le changement diachronique, parce qu'on sait que si on étudie les langues romanes, les variétés romanes du point de vue diachronique, que la règle se réduit de plus en plus en suivant les étapes que je vous ai données dans la figure 1. Ok? On va passer maintenant aux universaux. On va prendre l'exemple de la finitude. On constate normalement que dans les langues du monde, la finitude représente une distinction binaire, c'est-à-dire la flexion, ou si on veut, inflection, peut avoir deux caractérisations. Sur la première, il y aurait une flexion plus temps, plus accord. Donc, on a affaire avec un verbe fléchi, comme dans le cas du français. Elle rentre, elle rentrait, elle rentra, elle rentrera, elle rentra, etc. à la maison. Et parce que le verbe est riche, parce que le verbe comporte des flexions pour le temps et pour l'accord du sujet, on peut réaliser un sujet explicite, comme on voit ici, elle. Dans le cas de l'infinitif, par exemple, donc un verbe non fléchi, un verbe non fini, le verbe non fini n'a pas de flexion temporelle, pas de flexion relative à l'accord. Et de cette façon, on n'aura jamais de sujet explicite, on n'a qu'un sujet nul, qu'on appelle « big pro », si on veut. Donc, dans le cas de l'infinitif en français, on a « avant de rentrer, papa a téléphoné ». On ne peut pas dire en français « avant d'elle rentrer, papa a téléphoné ». Parce qu'on ne peut pas avoir un sujet là, parce que le verbe est un verbe infinitif qui n'est pas très riche. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on soutient normalement. Pourtant, on trouve pas mal de variétés romanes où on peut quand même avoir une phrase avec le verbe à l'infinitif qui légitime quand même un sujet nominatif. C'est le cas du français régional. Dans certaines régions de la France, par exemple, on peut avoir des phrases comme « Je m'adresse à vous pour vous me donner quelques renseignements, pour que vous puissiez me donner ». Dans ce cas-là, on a l'infinitif. Donc, on voit que même s'il s'agit d'un verbe à l'infinitif non fini, on a quand même un sujet. Il en va de même pour l'occitan, «Eu trabalho per elle s'amusa». Je travaillais pour elle s'amuser, pour qu'elle puisse s'amuser. On a d'autres exemples, toujours en Occitanie, en espagnol par exemple, puis dans d'autres variétés non standards, en Corse, en Sarre, dans ligurien, en sicilien. Donc on voit que la règle universelle n'est pas universelle. Il faut être quand même, disons, plus flexible et il faut accepter que la finitude ne représente pas une simple dichotomie, mais représente plutôt une notion scalaire. Donc, on a ce qu'on vient de voir, des cas d'infinitif personnel qui, sur le plan morphologique, ne sont pas finis parce qu'ils n'ont pas, ils ne présentent pas de flexion explicite, mais sur le plan syntaxique, ils se comportent comme s'ils ils étaient des verbes subjonctifs, par exemple, non? Alors, enfin, on va passer à la variation typologique, on va encore parler des infinitifs. On va noter que pas mal de variétés romanes présentent aussi la possibilité que l'infinitif apporte une flexion. Donc on parle là d'infinitif fléchi. Donc en français, on dit « vous décidez de partir », mais dans ces variétés-là, c'est comme si on pouvait dire « vous décidez de partir ». Donc, il y a une flexion à la fin. On trouve des infinitifs fléchis dans des variétés comme le sarde, l'ancien napolitain, le galicien, l'ancien léonais et en portugais européen moderne. Prenons l'exemple du sarde. On a par exemple cantare, chanter. Et à cet infinitif, on peut ajouter des flexions. Cantare po, chanter moi. Cantares, chanter tu. Cantare, chanter elle, lui, etc. Donc, on a une forme non fléchie, mais qui en même à la fois permet des formes fléchies. Et voilà des exemples. On a par exemple un ancien napolitain. « È ora di levarmi dall'olietta ». Il est heure de nous lever, mais ce n'est pas tout simplement de nous lever, mais de nous lever en du lit. Donc, on a une forme qui est non fini, mais qui en même temps présente une flexion. Donc ce n'est pas tout simplement un infinitif, c'est un infinitif un peu spécial qui veut en quelque sorte se comporter comme s'il était une forme fléchie. En plus, il y a des variétés romanes qui présentent des gérondifs et des participes qui sont fléchis. C'est toujours le cas du galicien, du portugais et de l'ancien napolitain. On va prendre quelques exemples. 5B, par exemple, là, en galicien, cantando des, quindi chantant, mais avec une flexion pour la deuxième personne plurielle, ainsi. Donc c'est une possibilité qui n'existe pas en français, qui n'existe pas en italien, etc., mais existe dans ces variétés. Un exemple avec un participe fléchi, on va prendre l'exemple du napolitain ancien. Erano due mariti e mogliere timentino. Donc il y avait deux maris et deux femmes craignant, mais craignant-on. On a une flexion qui marque la troisième personne plurielle. Donc on voit que les variations typologiques souvent se révèlent plus vastes que celles qu'on trouve dans les langues standards. Et donc il faut reconnaître les catégories, les parties du discours traditionnel ne sont pas forcément définitives. Quand on élargit son regard, on voit de la variation de ce genre-là. Il faut peut-être repenser les catégories traditionnelles et les parties du discours. En plus, une approche scalaire de la finitude s'impose parce qu'on ne peut pas parler tout simplement des formes finies, des formes non finies, comme on a vu. Et il faut quand même reconnaître au moins quatre types. Un type très fini, c'est-à-dire le présent, l'imparfait, le futur, où on a des marques de temps, d'accord. Puis un infinitif canonique, normal, où il n'y a pas de marque de temps, pas de marque d'accord. Et puis on a, disons, des catégories intermédiaires, comme l'infinitif personnel, qui n'a pas de marque d'accord, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on a soutenu ailleurs qui c'est un forme d'infinitif qui comporte quand même un temps déétique. Puis on a les infinitifs fléchis qui n'ont pas de marques de temps déictique, mais qui comportent, comme on a vu, des marques d'accord. Donc il faut quand même admettre un continuum quand on parle de la finitude. Alors, quels sont les objectifs de ma présentation d'aujourd'hui? On va passer ensemble, on va passer en revue les variétés romanes, surtout non standards, parce que les variétés non standards sont souvent peu étudiées et traditionnellement elles sont éclipsées par les variétés standards. On va voir que ces variétés non standards, ces dialectes, ces patois présentent des données très importantes pour les questions relatives à la théorie linguistique. Donc on va voir qu'on a affaire avec un terrain d'enquête très fertile. Puis en plus, il y a souvent des différences très minimales entre les structures qu'on relève dans ces variétés qui nous aident à comprendre la micro-variation. Donc, on va découvrir comment les variétés romanes non standards peuvent enrichir la théorie linguistique. Les données romanes non standards peuvent évaluer et remettre en question nos théories de la syntaxe. Et à la fois élargir les bases linguistiques empiriques que nous employons pour faire de la syntaxe. Et puis enfin, on va découvrir comment la théorie linguistique peut enrichir la linguistique romane, c'est-à-dire mettre en lumière des faits empiriques qui sont apparemment inexplicables. Donc on va prendre en revue 4-5 exemples de différentes parties du monde où on parle les variétés romanes pour voir qu'est-ce qu'on peut découvrir au niveau empirique, qu'est-ce qu'on peut en plus apprendre au niveau théorique. Donc on va passer au premier cas, c'est celui du Ripano. C'est un dialecte qui est parlé en Italie, dans les Marches. Et ce dialecte est très intéressant parce qu'il présente une flexion contagieuse. On va voir ce que cela veut dire. On va partir du paradigme nominal. On voit qu'un peu comme en italien ou en espagnol, les noms, les adjectifs distinguent au masculin un masculin singulier, figlio, fils, puis au pluriel, figli, fils, comme figli en italien. Au féminin, on a, disons, une inversion des voyelles qu'on trouve en italien. Au singulier, on a figlie, donc figlia en italien, puis au pluriel, figlia, figlie. si on veut. Puis en plus, il y a des noms dits neutres, comme le jambon, prosciutto, qui ont une terminaison en choix. Donc, au singulier, on a « ou » et « e ». Figlio, fille, prosciutto. Maintenant, si on passe à examiner les verbes, le paradigme du verbe, on voit que le verbe ne se comporte pas comme un verbe, mais se comporte plutôt comme un nom, un substantif, non? Parce que le paradigme, on a au singulier « magno ». Donc, si je suis homme, je suis un homme, je dis « magno ». Et cela veut dire « je mange », ça veut dire « tu manges », et cela veut dire « il mange ». Si je suis femme, je peux dire « magne », et cela signifie « je mange », femme, « tu manges », femme, ou « elle mange ». Donc, on voit, on ne distingue pas la personne. On ne distingue que le nombre et le genre, comme si c'était un nom et pas un verbe. Même au pluriel, où il y a des traces en plus pour marquer la personne, on voit le même phénomène. Donc, on dit « magnemi », nous mangeons si on est des hommes, « magnema », si on est des femmes. C'est comme on voit ici « figli », « fille ». Et au pluriel, dans les autres personnes, on voit les mêmes choses. Par exemple, « magni », il mange, « magne », elle mange. Et puis, si on prend un verbe impersonnel comme « pleuvoir », tout comme le jambon, on a « piove », comme le choix final. Donc on voit que le verbe ne se comporte pas comme un verbe, mais se comporte comme si c'était un élément nominal. Donc la flexion qu'on trouve, ce n'est pas une flexion, disons, carrément verbale, mais c'est plutôt une flexion nominale, mais qui, dans ce cas-là, concerne le verbe. Donc, si on prend quelques exemples, « facetto nous gira », on entend dans ce dialecte que le sujet, dans ce cas-là, c'est un homme, parce qu'il y a un « u » final. Dans le cas de « mette », parce qu'il y a un « e » final, on sait que le sujet est féminin. Donc, on a des informations qu'on n'a pas normalement dans les langues romanes, mais parce que dans ces variétés-là, le verbe suit une conjugaison qui est plutôt une déclinaison, qui indique pas la personne, mais plutôt le genre et le nombre. Mais j'ai parlé de flexion contagieuse parce que cette flexion se trouve dans presque chez toutes les parties du discours. Prenons les exemples des verbes, non fléchis, même les participes. Donc on dit le garçon a dormi, la fille a dormi. On trouve dans ces cas dormito, masculin, dormite, féminin. Avec un gérondif, donc le garçon était en train de faire la cuisine, la fille était en train de faire la cuisine, donc on a littéralement être plus gérondif. On voit que le gérondif marque le nombre, tout comme le verbe. C'est le même, il en va de même pour les infinitifs. Sais-tu écrire, si on est un homme, sais-tu, sai scrivo, sai scrive. En plus, on trouve l'accord avec les compléments prédicatifs. Si je suis homme, je dis « c'haiu famu, c'haiu setu ». J'ai faim, j'ai soif. Si je suis femme, je dis « c'haie fame, c'haie sete ». C'est comme si on pouvait dire en français « j'ai faim, j'ai soif ». Donc, on voit que le complément, dans ce cas-là, s'accorde avec le sujet. Il en va de même pour les numéros, donc les chiffres. Ci stia centi frocchi, il y avait 100 garçons, ou 100 montre un accord masculin pluriel avec garçon. Il y avait d'usso la vinda sedia, je vois seul 20 chaises, ou 20 et chaises, 20 dans ce cas-là, a un accord. Toutes les parties du discours sont capables de montrer l'accord. Même les syntagmes WH, interrogatif relatif, si je vous pose la question, comment est-ce que tu te sens? Si je m'adresse à un homme, je dis como te sientes. Si je m'adresse à une femme, come te sientes. Même les adverbes ont l'accord, donc les fleurs sont ici, ici, ecchi, pluriel, masculin, parce que li fiore, c'est un nom masculin. Même dans le cas de l'horloge avancée toujours, qu'on dit littéralement, l'horloge allait toujours en avant, toujours et en avant, présente un accord au masculin singulier qui représente, reflète ce qu'on voit là avec le horloge masculin singulier. Et même les prépositions sont capables de fléchir. Donc, on dit après le jour est masculin, dopo l'udì, mais après la nuit c'est du féminin, dopo le notte. C'est un phénomène au niveau typologique très rare. Il y a des cas, par exemple, dans les langues celtiques, comme les gallois, mais dans ces cas-là, ce n'est qu'avec les pronoms qu'on trouve l'accord. Mais dans ce cas-là, on voit qu'on a l'accord avec tous les nominaux. Donc, quelle est la conclusion qu'on peut tirer des données du Ripano ? Qu'on a affaire avec une variété typologiquement vraiment exotique. Le Ripano soulève d'importantes questions à propos de la définition et des critères formels pour l'identification des catégories linguistiques. Normalement, sur la base de langues comme le français, l'anglais, etc., l'allemand, on dit qu'on trouve l'accord, par exemple, avec les noms, les adjectifs et les verbes, mais non pas avec les adverbes et les prépositions. Mais on a vu que dans ce cas-là, il faut reconnaître que l'accord représente un trait qui peut caractériser toutes les parties du discours. Et il faut peut-être, sur la base des données du Ripano, postuler qu'il existe une projection, une position d'accord à tout, avec tous les syntagmes lexico-fonctionnels. Donc, même si on ne voit pas en français ou en anglais l'accord avec les adverbes, il faut quand même au moins admettre la possibilité qu'il y ait une position, une projection relative à l'accord, même dans ces cas-là. Et si on pense que si on voit que c'est possible en Ripano, c'est peut-être possible dans toutes les langues, mais on ne le voit pas en français, on ne le voit pas en anglais parce qu'il n'y a pas de traces, de réflexes, si on veut, explicites. En plus, on va passer un argument dont a parlé le professeur Rizzi, c'est-à-dire les sujets nuls. Le Ripano, c'est une variété où les sujets sont normalement nuls, donc on ne prend pas les pronoms. Et si on reprend le paradigme du verbe, on voit que le verbe, au moins au singulier, ne marque que le genre et le nombre. Mais normalement, on soutient que dans les langues à sujet nul, au moins les langues européennes, qui sont des langues à sujet nul, ce qui légitime le sujet nul, c'est la personne, et peut-être aussi le nombre, mais surtout la personne. Mais on voit que dans ces exemples-là, moi, au singulier, il n'y a pas de marque de personne. Magnus est une forme qui peut être ambiguë, non ? Parce que ça peut signifier « je mange, tu manges, il mange », mais il faut que le sujet soit masculin. Magné, c'est le cas en vers où on a un sujet féminin. Donc, on voit qu'il faut peut-être repenser aussi les conditions qui règlent la légitimation des sujets nuls. OK. On va passer maintenant au portugais brésilien. On va se demander où est le sujet. Alors, on sait que normalement, on peut distinguer deux types de langues parmi les langues du monde. Il y a des langues à prédominance du sujet, c'est-à-dire un auteur, et c'est le cas du français et de l'anglais, où normalement la phrase est organisée autour du sujet grammatical. Donc on dit en français « les chiens mordent les gens », et c'est quelque chose de très différent par rapport à « les gens mordent les chiens ». D'accord ? Parce que on part du sujet, et le sujet fait quelque chose normalement. Par contre, il y a des langues dans le monde qui sont des langues à prédominance du topic, donc on ne part pas du sujet, mais on part d'un élément d'intérêt. Donc, dans ces langues-là, la phrase est organisée autour du topic. C'est le cas du chinois, du birman, d'autres langues asiatiques. Je vous ai donné des exemples là en 15 ans. Je ne lirai pas parce que je ne sais pas comment ça se lit. Mais on voit qu'en tête de phrase, on a ces mots-là, « Jean topic ». Et cette phrase est vraiment ambiguë parce qu'on n'indique pas le sujet. On sait tout simplement qu'on a affaire. Si on veut, on parle de gens, de personnes. Et cette phrase peut signifier les gens mordent les chiens ou bien les chiens les mordent. C'est-à-dire les gens sont mordus par les chiens. Et c'est le contexte pragmatique qui, normalement, fait que la phrase se comprenne, si on veut. Non, donc, mais on n'indique pas le sujet, on indique tout simplement le topic. Parce que c'est une langue à prédominance du topic. Si on passe au portugais européen, on voit que c'est une langue à prédominance du sujet, donc on a l'ordre sujet-verbe-objet. Donc si on pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, ou que comptait ou la réponse peut être Ukrainse, Roubon, Ushbanouche, l'enfant vola les gâteaux, et on sait que c'est le sujet Ukrainse singulier parce que le verbe est singulier. Donc il y en a qu'entre le sujet et le verbe. Si la réponse est les enfants volèrent le gâteau, on a Ukrainse, Roubaron. Donc dans ce cas-là, on a un accord au pluriel avec le sujet. Si on passe, par contre, au portugais brésilien, on constate qu'on n'a plus affaire avec une langue à prédominance du sujet, mais plutôt une langue à prédominance du topic. Ce qui est important dans la construction de la phrase du portugais brésilien, c'est l'élément dont on parle, pas la personne ou la chose qui effectue l'action. Donc, on peut avoir, comme en portugais européen, muita gente cabe nestes carros, c'est-à-dire beaucoup de gens singuliers entrent dans ces voitures. Mais on peut avoir aussi, si on ne parle pas des gens, des personnes, mais des voitures, on peut avoir esses carros, donc ces voitures cabe muita gente. On voit que ces voitures, maintenant, contrôle l'accord cabin pluriel. Mais la phrase, c'est toujours la même. Dans ces voitures, il y a de la place pour tout le monde. Donc, même si c'est un topic, c'est le topic qui contrôle, qui légitime, si on veut, l'accord. Et non pas le sujet sémantique, non, logique, muita gente, qui est singulier. C'est la même chose. Chove muito nessas florestas, il pleut beaucoup dans ces forêts. Mais on peut dire, on peut mettre cet élément-là en tête de phrase et on enlève la préposition esses florestas, ces forêts, chovem, pluriel, muito. On voit encore une fois que le topic qui n'est pas le sujet, parce qu'on ne parle pas, il n'y a pas de sujet, disons, évident, mais on parle des forêts, hein, forêts, on dit dans ces forêts, il y pleut beaucoup. Il y a un accord avec le topic. Donc, si on prend quelques autres exemples, esses caixas batem sol, ces maisons battent soleil, os relógios quebraram o ponteiro, les montres se cassèrent l'aiguille, on devrait savoir que cela signifie donc sur ces maisons, le soleil tape dessus. Donc, les maisons, ce ne sont pas le sujet, mais c'est toujours le topic. Or, pour ce qui est des montres, l'aiguille s'est cassée. Donc, on voit une organisation de la phrase qui est très différente par rapport à ce qu'on voit en européen portugais, en italien, en français, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Que certains aspects de la syntaxe centrale du portugais brésilien rappellent plutôt la syntaxe des langues asiatiques et non pas la syntaxe, disons, romane. Les données du portugais brésilien mettent en question les notions de base à propos d'organisation de la phrase romane parce que normalement, on s'attend à ce que le verbe s'accorde avec le sujet, mais dans ces cas, on a vu que le verbe s'accorde avec un élément qui n'est pas vraiment le sujet, mais c'est plutôt un topic. Et donc, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène. Je passe en revue la trois hypothèses. On pourrait dire que le brésilien ou le portugais brésilien ne distingue pas entre une position pour le sujet et une position pour les éléments topicaux, topicalisés. Donc il n'y a qu'une seule position qu'on voit ici, c'est-à-dire spec of TP, si on veut spec of agress, qui sert de position de sujet ou de position de topic. Et donc, si on met le topic dans cette position-là, il y aura l'accord avec le verbe. Et c'est la position adoptée par Alvlar et Galvez. L'autre possibilité, c'est celle qui a été proposée par Cardinaletti, qui dit qu'il y a deux positions pour un sujet, mais il faut distinguer entre une position grammaticale pour le sujet, une position plus basse. Donc, c'est une position qui contrôle l'accord. Et puis, une position plus haute, pour le sujet de prédication, si on veut le sujet sémantique. Donc, dans ce cas de, dans le cas du 21, nos loges viennent d'un livre. On a un accord, non pas avec nos loges, mais nos loges occupent la position de sujet sémantique, mais le sujet grammatical, c'est un élément nul, donc se vendent des livres. Mais dans le cas où on a loge vend de livres, où on a un accord singulier maintenant, loge est tant le sujet grammatical, donc il contrôle l'accord, mais qui se déplace à cette position-là pour devenir en plus ou pour contrôler les traits de sujet sémantique. Autre possibilité est peut-être celle qu'on obtient grâce aux études du professeur Rizzi, qui a élaboré tout un espace qu'on appelle la périphérie gauche, au-dessus du noyau propositionnel, où il y a des positions pour les topiques. Et on pourrait dire, par exemple, que dans ces cas, comme SSKages bat un sol, SSKages occupe une position de topique à l'intérieur de la périphérie gauche, qui est quand même liée avec une position du sujet grammatical. Et donc, on trouve un accord. C'est ce que j'ai dit moi aussi dans un article de 2010, quand j'ai parlé d'une construction un peu similaire dans le dialecte napolitain. Okay. Et si on accepte cette position-là, il faut dire peut-être donc que le IPP, c'est-à-dire la stipulation qui veut que chaque phrase porte un sujet, peut être contrôlée à l'intérieur de la périphérie gauche. Ce n'est qu'une suggestion. Donc, une dernière constatation que je n'explique pas, mais que je vous laisse. Qu'est-ce qu'on fait donc du français parlé ? Où on observe même très souvent une organisation de la phrase qui part du topic et pas du sujet. Donc en français, on peut avoir parlé, les chiens, ça mord les gens. Ouais, donc on a un topic et puis un sujet grammatical, ça, qui reprend en quelque sorte les chiens. Ou bien les gens, ils mordent les chiens. On peut même avoir les gens, ça mord les chiens. Mais on voit que peut-être on pourrait dire que le français parlé ressemble un petit peu au portugais brésilien. Mais je ne sais pas, ce n'est qu'une hypothèse. Alors, on va passer maintenant, on va rester en France, on va passer au gascon et le marquage de la phrase. Et on va parler en particulier des dialectes béarnais, où on constate un phénomène, disons, très spécial, où on trouve dans les phrases principales, dans les propositions principales, un élément qu'on peut appeler, définir une conjonction de subordination, c'est-à-dire le « qu'est » énonciatif. Donc, en français, on sait très bien, on dit « tu chantes »,« tu manges »,« je vais »,« je me lave », etc. Mais en gascon, on dit « que cantos ». On ne peut pas dire « cantos ». Il faut dire « que ». On prononce « que ». Donc, je ne dis pas « je me lève », mais je dois dire « que me lève ». Si j'en mets le « que », la phrase n'est pas grammaticale. Donc, une particularité très bizarre de ces dialectes, c'est que les phrases principales doivent toujours commencer par un complémentaire, une conjonction de subordination. Donc, cette... De ce point de vue, une variété typologiquement très exotique, parce que les phrases déclaratives dans une perspective interlinguistique ne sont pas normalement marquées. On dit comme en anglais, on dit comme en français, en allemand. Le chien regarde la maison, il cane guarda la casa, der Hund sieht das Haus an, the dog watches the house. Il n'y a pas de marque particulière pour les phrases déclaratives. Mais dans le cas du gascon, il faut marquer la phrase comme déclarative en insérant cet élément « que ». Lucan que guarda l'ustao. Et on va noter que le sujet doit toujours précéder que. On ne peut pas le mettre là. On ne peut pas dire que Lucan guarda l'ustao. Il faut dire Lucan que guarda l'ustao. En tout cas, on voit donc qu'on a une structure qui ressemble dans une certaine mesure à une phrase subordonnée. Parce qu'on dit par exemple « ton père a fait une bêtise, que tu paies una bestiesa ». Donc c'est comme si c'était une phrase subordonnée. Je mange, je mangerai tout le pain. Que me mangez tout le pain. Donc c'est vraiment bizarre. Et même les phrases subordonnées en chassé présentent donc deux conjonctions de subordination. Il y a la conjonction de subordination, le complémentaire vrai, permu que, parce que, los seipaires, les ramasseurs de champignons, que, c'est le que énonciatif, sous Mathias. Donc on a deux que dans ces structures-là. Pourquoi est-ce qu'on constate cette particularité, ce trait dans les variétés gasconnes? Comme j'ai voulu soutenir dans un travail de 2020, c'est grâce au contact avec le basque, parce que comme on sait, le gascon a été en étroit contact séculaire avec le basque. Et en basque, on trouve tout un système de particules en tête de phrase qui marque la force de la phrase. Il y a bai pour la force déclarative, il y a al pour la force interrogative, optative, ote pour dubitative, etc. Et on trouve, même si les éléments lexicaux sont différents, on trouve le même système qui est reproduit, qui est répliqué en gascon. Donc ce n'est pas tout simplement les phrases déclaratives qui présentent en tête de phrase un élément qui marque la force illocutoire, mais on trouve aussi une marque pour les phrases interrogatives, les phrases dubitatives et pour les phrases évidentielles, par exemple. Donc, on voit que le gascon n'a fait que reproduire ce qu'on trouve en basque. Et donc, c'est vraiment un phénomène très, très spécial. Parce que on a trouvé un unicum, c'est-à-dire il y a très peu de langues dans le monde qui présentent une marque spéciale pour signaler, si on veut, les phrases déclaratives, parce que normalement les phrases déclaratives ne comportent pas de marque spéciale. En plus, on voit que grâce au contact, on a reproduit, on a répliqué une structure basque qui est une langue non indo-européenne, donc le contact se fait même dans ce contexte-là. Et puis en plus, il faut en quelque manière intégrer ce qu'on vient de voir, cet trait exotique, même dans nos théories de la langue. Et ici, grâce du nouveau aux travaux du professeur Rizzi, on a une explication très très facile. Dans la périphérie gauche proposée par le professeur Rizzi, on voit qu'il y a deux positions pour les complémentaires, pour les conjonctions de subordination. Une position haute, où on trouve normalement les conjonctions de subordination, comme « que » en français, « il a dit qu'il est malade ». Mais il y a aussi une position « thin phrase », une position très basse, qui normalement n'est pas toujours lexicalisé, mais on voit que dans le cas donc du gascon, cette position, c'est celle qu'on trouve dans les phrases principales. Et on voit les deux positions réalisées dans les phrases subordonnées, comme on a déjà vu. Il semble que toutes, donc il semble que tous, que nous pourrions tous parler. On a semble que tous que pudrem de bichat. Donc on voit vraiment ce qu'a proposé le professeur Rizzi, même sans peut-être connaître les données, les faits gascons. On voit que cette structure proposée par le professeur Rizzi est exactement ce qu'on trouve en gascon. Et ce n'est pas par hasard, hein, c'est pas un fait casuel. Et on voit encore une fois que le sujet, comme je vous ai déjà dit, doit se prononcer dans cette position-là, c'est-à-dire... je dois trouver devant que. Et donc, on a affaire avec un élément qui est topicalisé, focalisé. Et si c'est topicalisé, ça peut-être nous rappelle ce qu'on a vu pour le portugais brésilien, où les sujets, si on peut les appeler sujets, sont des éléments topicalisés. Et on voit encore une fois que donc, le sujet doit être légitimé toujours à l'intérieur de la périphérie gauche, dans le cas du gascon, et pas à l'intérieur du noyau propositionnel. En plus, si on veut, on peut proposer, comme j'ai fait dans mon travail de 2020, que ce qu'on voit avec ce qu'énonciatif, ce n'est qu'une autre, si on veut, marque explicite de la contrainte verbe second. C'est-à-dire, en gascon ancien, comme dans toutes les variétés romanes médiévales, on déplaçait le verbe en deuxième position, c'est-à-dire le verbe devait occuper et réaliser la tête de fin phrase. Donc, « aquesta carta pausam nos tots tres », tout comme en allemand moderne. Donc, c'est un cas de verbe second. Et maintenant, on peut dire, donc, en gascon moderne, on a la même règle, mais la règle a changé parce que on ne déplace plus le verbe, mais on réalise la même position avec le complémentaire. Donc on peut, si on veut, conclure que le gascon moderne est une langue à verbe second, dans le sens technique. C'est-à-dire qu'il faut toujours réaliser, lexicaliser la tête fin phrase. Dans l'ancien gascon, on réalisait sa tête avec le verbe qui se déplaçait, et maintenant on réalise cette même position avec cette qu'est énonciatif. OK? On va passer maintenant au grec, c'est-à-dire le grec qu'on parle en Italie, dans la partie méridionale de l'Italie. Même si on ne parle plus très vaste, dans de vastes zones de l'Italie méridionale, le grec est conservé et se parle encore en Italie, c'est-à-dire en Calabre, où on l'appelle greco, ou si on veut en italien, grecanico. Donc, il y a 6 pays où on parle encore le grec comme langue maternelle. Et puis, en Salento, il y a 7 pays où on parle encore le grec, l'italo-grec, qu'on appelle grico. Okay? Et c'est une langue que j'étudie depuis plus de 10 ans maintenant. Et même si on ne parle plus le grec dans tous les pays de l'Italie méridionale, où on le parlait avant, le grec se fait sentir encore parce que les dialectes romans qu'on parle dans cette partie de l'Italie méridionale ressentent encore du grec. C'est-à-dire, les structures qu'on voit ne sont pas souvent des structures romanes, mais sont plutôt des structures grecques. On va prendre l'exemple de l'infinitif. L'infinitif, comme vous savez peut-être, en grec ne s'utilise plus. C'est un phénomène qui regarde presque toutes les langues des Balkans. Et donc, dans le grec de la Calabre du Salento, on ne l'emploie plus, presque plus, l'infinitif. Et on trouve 2 complémentaires. Il y a un complémentaire spécialisé pour les phrases à l'indicatif, donc « ti » ou « ka », comme on voit en 30, « sulego tier », comment « je te dis que je viens », « ti » ou « ka ». Mais pour les propositions au subjonctif, on trouve un autre complémentaire, qui est « na », comme en grec moderne. Donc on dit « telina gorra in aspita », elle veut que elle achète une maison. Mais que, ce n'est pas le même que qu'on voit là. On a ti versus na, ka versus na. Donc il y a 2 complémentaires. Un complémentaire pour les propositions indicatives, un complémentaire pour les propositions au subjonctif. Donc, dans la langue romane, comme on sait, comme en français, on utilise de façon très répandue l'infinitif. Elle veut acheter une maison, même qu'on y ait la co-référence. Et il n'y a qu'un complémentaire. Il m'a dit qu'il ne te connaît pas. Et même dans les phrases au subjonctif, nous voudrions qu'elle vienne avec nous. Il n'y a que. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans les dialectes romans de cette partie de l'Italie méridionale? On trouve des structures grecques, pas des structures romanes. Donc, on a 2 complémentaires. Donc, en calabrais, par exemple, on dit « ti dico che vai oggi », « je te dis que je vais aujourd'hui ». Mais si je veux dire « je dois aller voir » ou « je dois aller aujourd'hui », on n'utilise plus « ka », mais on a « mu ». Aiumu vaiumu viu, du vaiumu vaiu oia. Littéralement, je dois, que je vais, que je vois, ou que je vais aujourd'hui. On n'utilise pas l'infinitif. Mais en français, on dirait, oui, mais évidemment, je dois aller voir où je dois aller aujourd'hui. Donc on voit que les structures sont grecques, même si les mots sont des mots romans. Donc, au contraire des langues romanes standards, comme le français, cet été, je voudrais connaître ta grand-mère, on dit en grec, en italo-grec, tundo calocheri thana ivrotinonas, cet été, je voulais que je trouve, que je rencontre, et en calabrais, par exemple, ou en salentino, cet estati vurriam incontro, cet été, je voudrais que je rencontre. Donc, on évite l'infinitif. Donc, on voit, on a à faire avec des structures grecques. Donc, pour conclure, on peut dire que dans ces cas-là, on a le grec déguisé en langue romane. Parce que même si les mots, c'est-à-dire la matière, est romane, la syntaxe est toujours grecque. Et ce qu'on appelle, ce que Rawls appelait spirito greco mater romans, esprit grec matière romane. En plus, on a encore une preuve de la périphérie gauche du professeur Rizzi, parce qu'on a vu qu'il y a deux complémentaires, on a déjà vu qu'il y a deux positions pour les complémentaires, force et fin. Et on voit que dans ces dialectes grecs, ces dialectes romanes, le complémentaire spécialisé pour les propositions indicatives occupe une position très haute, donc qui précède les éléments topicalisés et focalisés, tandis que les complémentaires spécialisés pour les phrases et les subjonctifs se trouvent dans une position plus basse et sont suivis par les éléments topicalisés et focalisés. Donc on a une preuve ultérieure de la structure hypothésée par Luigi Rizzi. Donc on a par exemple pisteo ka, donc que, uchurisa, élément focalisé, et puis le verbe. Mais si on prend l'exemple d'un complémentaire qui introduit une phrase au subjonctif, on a oio ou giorgio, topic, puis ensuite la tête de fin phrase cou. Donc on voit encore une fois que la structure proposée pour la périphérie gauche est reflétée de manière directe dans ces dialectes. Alors, le dernier argument que je vais traiter, ce sont les tensions composées et les phrases hypothétiques. Comme vous savez, en français, on peut avoir à côté de « j'ai voyagé », donc un temps composé simple, on peut dire dans certains contextes, et surtout dans certaines régions de la France, du monde francophone, « j'ai voyagé ». Donc, on a deux auxiliaires, « j'ai » et « eu voyagé ». Ok ? On sait que en français et dans d'autres langues en variété romane, normalement, cette périphrase surcomposée peut comporter une valeur accomplie, perfective. Donc, dans le cas de 45A, dès qu'elle a eu fermé la porte, elle s'est déshabillée. La signification, plutôt, dès qu'elle a fini de fermer la porte. Mais dans d'autres cas, on sait que la même périphrase peut comporter des valeurs expérientielles ou épisodiques. Donc, c'est le cas de Cerda, un dialecte du nord-est de l'Italie. On a « gobbi ho visto il papa », littéralement « j'ai eu vu le pape ». Et cela veut dire « il m'est arrivé, j'ai eu l'occasion, donc ça fait partie de mes expériences ». Et ça ne fait pas référence à un acte dans le passé, mais « j'ai eu l'occasion ». Donc, on voit que c'est une périphrase spécialisée pour véhiculer ce sens-là. Et ces temps surcomposés se trouvent dans pas mal de variétés romanes, en occitan, en catalan, en ladin, et même en ancien napolitain. OK ? Si on passe maintenant aux variétés germaniques, on trouve le passé surcomposé même dans les variétés germaniques, c'est-à-dire dans les variétés de l'allemand méridional, en Suisse par exemple, et même dans les dialectes néerlandais. Mais là, on nous dit que la valeur est toujours celle d'une valeur perfective accomplie et pas celle de la valeur et pas la valeur expérientielle positive qu'on a vue j'ai vu le pape. Donc, ira gasera, j'avais mangé à voir, ça signifie j'avais fini de manger. On va passer maintenant au dialecte de Wallonie, donc on va passer à la Belgique méridionale, où on parle des variétés des longs de la langue d'Oyle. Non. Et là, on note qu'il y a des formes surcomposées qui s'emploient comme en français. Donc, on a une valeur aspectuelle accomplie. Quand j'ai eu déjeuner, j'ai moussi fou, j'ai entré d'or, je suis sorti. Donc, il n'y a rien de nouveau là. C'est comme en français. Mais on les trouve surtout, les tensions composées, dans les phrases qui comportent une valeur modale, c'est-à-dire qui font référence à un monde irréel. Donc, on les trouve très souvent dans les phrases hypothétiques irréelles du passé. Donc, on a par exemple « Couviez-vous à vue passée ?» Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est « Qu'eussiez-eu pensé ?»« Qu'auriez-vous pensé ?» S'il aurait eu plus, s'il aurait eu plus, on aurait eu sti toute fraîche, on aurait eu été tout mouillé. Si je l'eus a vu demander, si je l'eusse eu demandé, on me l'eût eu donné. Donc, ces formes surcomposées se trouvent surtout dans les phrases hypothétiques irréelles du passé. Ça touche, et c'est ce qu'on trouve aussi en sarde. Donc, le sarde présente des formes surcomposées, mais ces formes ne se emploient que dans les phrases hypothétiques irréelles du passé. Donc, c'est un peu vraiment comme ce qu'on a vu pour les dialectes wallonnais. On va passer maintenant à l'anglais. On va se poser la question, est-ce qu'on trouve des formes de surcomposées en anglais? Normalement, la réponse est non, il n'y a pas de formes surcomposées en anglais. Donc, on ne peut pas dire « As soon as I have had eaten, I'll go out. I've had seen the Pope, we've had sailed a boat. » Donc, normalement, on dit non, il n'y a pas de formes surcomposées en anglais. Mais si on regarde les phrases hypothétiques en anglais, phrases hypothétiques et réelles du passé, on note, au moins dans l'anglais britannique, américain, même australien, parlé, qu'à côté de formes standards comme « if I had known, I'd have done it », donc si je l'avais su, on trouve « if I'd have known, I'd have done it ». Ce sont des phrases que je dirais très, très, très naturellement « if I'd have known ». Et si on essaie de décomposer ces formes, donc « if I had have known », la phrase devient agrammaticale. Ce n'est pas possible. Donc la forme contractée est acceptée, mais la forme décontractée, décomposée, « if I had have known », ne marche pas. Mais on a affaire là avec deux formes d'avoir. « Had »,« j'avais » et « of ». Qui semble être avoir, mais on ne sait pas. Mais c'est certainement une forme d'avoir. Et les Anglais ne savent même pas comment il faut écrire ces formes-là. On peut écrire if I'd have known, if I'd have known, mais on ne peut pas dire had have, mais would have. Donc il faut qu'il y ait au moins une forme réduite. On peut écrire if I'd have known. On peut même écrire, comme voudrait Richard Kane, if I'd have known. Les Américains souvent écrivent if I had known et même if I'd known. Donc on voit qu'on a affaire avec deux formes d'avoir qui ressemblent en quelque sorte à ce qu'on a observé, constaté pour le français standard, le français parlé en Wallonie et même le sarde. Donc, pour ce qui est des conclusions typologiques, on peut dire qu'il y a des parallèles surprenants au niveau du marquage du mode irréel parmi les dialectes wallons, les dialectes sardes et l'anglais parlé, parce qu'ils n'emploient les formes surcomposées que dans les phrases hypothétiques irréelles du passé. Donc il doit y avoir quelque chose là-dedans. Ce n'est pas un hasard que ces trois variétés qui ne sont pas des langues sœurs présentent cet emploi seulement dans les phrases hypothétiques. Et en fait, au niveau théorique, on pourrait dire qu'on a là des ingrédients empiriques très précieux, très importants pour comprendre mieux la composition sémantique de l'irréel du passé et pour la construction syntaxique, non, de l'irréel du passé. Dans un travail de 2023, moi, j'ai essayé de comprendre et de construire une théorie pour comprendre ce qu'on voit là. Et j'ai hypothisé que cette seconde, deuxième occurrence d'avoir, « eu » ou « of » en anglais, etc., est une activation, si on veut, lexicalisation d'une projection fonctionnelle supplémentaire qui est spécialisée par la marque de la contrefactualité passée, c'est-à-dire la tête de T anterior proposée par Cinque en 1999. C'est-à-dire cette position-là au sein d'une structure cartographique. Et ce n'est pas une tête temporelle, c'est-à-dire cette U, cette œuvre, ne marque pas la distance temporelle, mais c'est une, ce qu'on appelle Yatridu, a fake past, donc c'est un passé faux, qui sert à marquer une distance modale par rapport au monde réel. Donc, en quelque sorte, l'inclusion, l'activation de cette position, de cette auxiliaire, déplace, si on veut, le monde, la phrase, l'énonciation du monde réel à un monde irréel. Donc, pour conclure, on a vu que les limites de la variation linguistique sont très vastes et on ne peut pas se baser tout simplement sur les variétés romanes standards. On a vu d'une perspective romane que les variétés romanes standards ne nous offrent qu'un tableau partiel de la variation possible, tandis que les variétés romanes non standards présentent plutôt un tableau beaucoup plus riche. On a vu que le rôle des données romanes nous aide à mieux comprendre les paramètres, c'est-à-dire les dimensions de variation possibles, à comprendre les universels, les règles sous-jacentes au langage humain, et enfin, pour comprendre et pour mieux étudier la typologie des langues naturelles, c'est-à-dire les classes naturelles. Et ce point-là, je m'arrête. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.